France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un 13-14 sur le terrain. Nous sommes à Pau, dans le Béarn, une région ébranlée par l'affaire Notre-Dame de Bétarame.
Je trouve scandaleux que des individus aient pu dissimuler ça, au nom de la foi notamment. Prendre en proie des jeunes enfants qui ne peuvent pas se défendre ou qui, des années après seulement, ont la possibilité de s'exprimer après avoir vécu une vie traumatisée.
Plus de 150 plaintes déposées pour violences physiques et sexuelles commises dans cet établissement scolaire privé catholique dirigé par les prêtres de la congrégation de Bétarame. Nous sommes responsables, dit aujourd'hui son porte-parole.
J'étais horrifié de savoir ça. La violence là, telle que ça a été décrit, c'est incroyable. La honte, la colère aussi envers nos frères qui ont agi ainsi.
Alors pourquoi personne n'a entendu les appels à l'aide de ces jeunes garçons? Car il y en a eu. Ces violences étaient-elles généralisées dans d'autres établissements de France? Des plaintes sont déposées partout depuis quelques semaines. Comment agir pour les victimes quand les faits sont prescrits? C'est pour avoir ces réponses que nous sommes venus ici aujourd'hui pour donner la parole aux victimes ainsi qu'au procureur de Pau qui dirige les enquêtes. Beaucoup des personnes que vous allez entendre s'exprimer aujourd'hui le feront pour la première fois en direct. Sans oublier toute l'actualité de ce jeudi, c'est avec vous Céline Asselot. Bonjour Céline.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À commencer par l'enquête qui progresse sur la mort du petit Émile.
Oui, presque 2 ans après la disparition de l'enfant dans les Alpes de Haute-Provence, le procureur parle aujourd'hui d'une possible intervention d'un tiers. Des traces de traumatisme violent ont été découvertes sur le crâne du petit garçon. Les 4 personnes placées en garde à vue, dont les grands-parents, sont ressorties libres, mais la piste familiale n'est pas définitivement écartée. On va y revenir en détail. On parlera aussi de l'inquiétude de la filière automobile en France après l'annonce des nouveaux droits de douane par les États-Unis, de l'avocat de Boualem Sansal qui appelle le président algérien à faire preuve d'humanité. L'écrivain vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme. On ira en Israël où le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et l'opposition sur la réforme de la justice. Une loi a été votée ce matin et puis les pénuries de médicaments ont été moins importantes l'année dernière. Mais on verra que des produits essentiels, paracétamol, antibiotiques notamment, ont manqué dans les étagères des pharmacies.
Et puis juste avant 14h, nous verrons qu'ici à Pau, la thérapie avec l'aide d'un animal de compagnie peut être utile pour les victimes. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Nous sommes donc installés à Pau aujourd'hui, car c'est ici que les plaintes déposées dans cette affaire sont traitées par le parquet que vous dirigez, Rodolphe Jarry. Bonjour.
Bonjour Jean Cadet.
Vous êtes le procureur de la République de Pau, merci d'être avec nous. Je vais vous donner la parole dans une minute, mais je voudrais d'abord présenter le lieu où nous sommes, l'association APAVIM, l'association pyrénéenne d'aide aux victimes et de médiation. Bonjour Katia Legray.
Bonjour.
Vous en êtes la directrice, nous sommes dans un ancien couvent. Ce qui est assez paradoxal vu le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Nous sommes dans le jardin, c'est un cadre calme, apaisant. Il y a dans ce bâtiment, juste au-dessus de la volée des marches, des bureaux, des psychologues accueillent des victimes de tous âges. Et vous répondez, j'allais dire de manière incessante, au téléphone. Depuis plusieurs semaines, il y a un numéro de téléphone qui a été lancé, mis en place pour les victimes de Notre-Dame de Bétarame. Beaucoup d'appels?
Oui, tout à fait. Nous avons reçu près de 350 appels depuis que la ligne a été ouverte. Donc à savoir à peu près 3 semaines. Sur ces 350 appels, 320 concernaient des victimes directes de Bétarame, 30 dénonçaient d'autres établissements.
Que vous disent ces personnes qui vous appellent, essentiellement des hommes?
Oui, essentiellement des hommes, bien que nous ayons également reçu des témoignages de femmes également victimes de même prêtres. Ces hommes dénoncent la cruauté qu'ils ont subie, l'omerta, la non-prise en charge aussi de leurs mots lorsqu'ils étaient enfants, lorsqu'ils ont pu verbaliser, et le fait aussi de ne trouver finalement aucun référent à la hauteur lorsqu'ils étaient victimes et encore aujourd'hui.
Vous répondez du lundi matin au dimanche soir, 7 jours sur 7, vous êtes surprise d'avoir reçu autant d'appels?
Oui, c'est toujours surprenant de recevoir autant d'appels qui nous expliquent quasiment les mêmes faits, les mêmes atrocités. Ça reste un nombre auquel nous nous attendions avec le parquet de Pau.
Vous aviez précédemment dans votre carrière travaillé avec des victimes de terrorisme. Est-ce que le choc est comparable?
Alors le choc va être différent puisque là il s'agit de faits qui remontent à à plusieurs décennies pour certains. Le traumatisme, bien évidemment, est là, très important, mais il s'agit d'enfants qui ont été victimes, avec une non-prise en charge immédiate, là où les victimes de terrorisme ont eu la chance de pouvoir bénéficier d'une prise en charge très rapidement à la suite des faits.
Et d'être reconnus très vite. 07 83 44 40 25, c'est le numéro auquel vous décrochez. Et vous venez en soutien de l'action de la justice, Rodolphe Jarry. Ce lieu, il est très important pour vous aussi qui êtes procureur.
Une association d'aide aux victimes, c'est absolument indispensable, tant pour les dossiers du quotidien que pour les dossiers hors normes, comme celui de Bétarame. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de justice pénale de qualité si on n'a pas une association d'aide aux victimes sur laquelle on peut s'appuyer.
Car la justice ne peut pas tout dans ce dossier, et on va en parler ensemble dans les prochaines minutes. Vous nous direz les faits sur lesquels vous pouvez enquêter, ceux qui sont prescrits. Nous donnerons aussi la parole à nos invités, Alexandre Pérez, qui a été élève à Bétarame, Annie, dont le fils a été élève aussi là-bas dans les années 90, et puis le prêtre Laurent Bachot, le porte-parole de la congrégation, qui s'exprimera, et sa parole est rare, notamment sur la question des indemnisations. Avant cela, avec vous Céline Asselot, les autres titres donc de l'actualité de ce jeudi. Et la mort du petit Émile, la piste familiale n'est pas encore refermée.
Oui, les grands-parents, l'oncle et la tante du petit garçon disparu en juillet 2023 au Auvernais sont ressortis libres de leur garde à vue. Mais le procureur de la République d'Aix-en-Provence qui donnait une conférence de presse tout à l'heure reste prudent. Leurs déclarations vont faire l'objet d'une analyse minutieuse. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Car l'enquête semble s'orienter désormais vers un homicide.
Oui, au regard de la soixantaine d'expertises menées sur les ossements et les vêtements de l'enfant retrouvés l'an dernier. Le procureur Jean-Luc Blachon en a livré quelques résultats tout à l'heure. Alors tout laisse penser que le corps d'Émile a été déplacé après sa mort, comme ses habits.
Les conclusions de ces expertises, réalisées sur une durée de plusieurs mois, permettent désormais de considérer que les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Permettent aussi d'affirmer que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt.
Le crâne de l'enfant porte des traces qui font penser à un violent traumatisme au niveau du visage, sans que le procureur ne souhaite dire, secret de l'enquête oblige, si on sait si ce sont les conséquences d'une chute, d'un accident ou de coups.
Alors il s'agissait là des premières gardes à vue, hein, depuis la disparition d'Émile il y a maintenant 20 mois, elles se sont terminées sans suite. Qu'est-ce qu'elles ont apporté aux enquêteurs?
Alors elles avaient pour motif de vérifier les récits des uns et des autres dans un cadre précis, donc avec enregistrement vidéo, présence des avocats, et en évitant bien sûr que ces personnes se concertent. Ces gardes à vue s'inscrivent dans la continuité d'un dossier qualifié de complexe par les enquêteurs. Pour vous donner une idée, en 20 mois, 287 témoins potentiels ont été entendus, 50 perquisitions menées et ça continue. Une voiture et un van saisis au domicile des grands-parents d'Émile vont être analysés. Quant à la jardinière de la chapelle du Auvernais saisie il y a deux semaines, les analyses n'ont rien donné, selon le procureur.
Merci Ariane Grissel, service police-justice de France Inter. Son cas est venu envenimer des relations déjà tendues entre la France et l'Algérie. Boualem Sansal a été condamné ce matin pour atteinte à l'intégrité du territoire à 5 ans de prison, soit la moitié de la peine requise par le parquet la semaine dernière. Bonjour Christian Cheneau.
Bonjour.
L'écrivain franco-algérien était présent, hein, d'ailleurs tout à l'heure lors de l'annonce de son jugement.
Oui, il a comparu seul, sans avocat, devant le tribunal correctionnel de Dar El Beida, dans la banlieue d'Alger, vêtu d'une veste beige foncée, d'un pull gris, cheveux coupés courts. Apparemment, Boualem Sansal ne présentait pas de traces de fatigue sur son visage, nous a rapporté un témoin sur place. L'examen du dossier par le juge a duré une dizaine de minutes. L'écrivain franco-algérien est resté silencieux tout au long de l'audience et n'a pas réagi à l'énoncé du verdict. Outre la peine de prison de 5 ans, il a été condamné à une amende de 500 000 dinars, soit environ 3500 euros. Alors maintenant que la justice algérienne a rendu sa décision, il peut faire appel dans les 10 jours, mais ses défenseurs et ses proches espèrent une grâce du président Tebboune compte tenu de son âge et de sa maladie. Il est atteint d'un cancer. Le calendrier y est d'ailleurs favorable, avec l'Aïd El Fitr lundi prochain qui marque la fin du Ramadan. Il est de tradition que le président gracie des prisonniers. En tout cas, l'avocat français de Boualem Sansal espère un geste d'humanité de la part du président Tebboune.
Et cette condamnation, merci Christian Cheneau, a suscité de très nombreuses réactions politiques en France, de tous bords d'ailleurs. Gabriel Attal, le chef des députés du parti Ensemble, parle d'une parodie de justice. Nous réclamons sa libération immédiate, dit Mathilde Panot de La France Insoumise. Tandis qu'au Rassemblement National, Marine Le Pen dénonce une tâche indélébile sur le régime algérien. Le Quai d'Orsay lui appelle, je cite, à une issue rapide, humanitaire et digne. La coalition coalition des volontaires réunie à Paris aujourd'hui. Une trentaine de dirigeants européens sont en ce moment à l'Élysée pour discuter du soutien à l'Ukraine et évoquer les négociations en vue d'un cessez-le-feu. Il faut maintenir la pression sur la Russie, dit le président du Conseil européen Antonio Costa. Pas question donc de lever les sanctions, comme le réclame Moscou en échange d'une trêve en mer Noire. Emmanuel Macron dit avoir parlé avec Donald Trump avant le début de cette réunion. Hier, le président français a annoncé une aide militaire supplémentaire de 2 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine. Et puis sur le front de la guerre, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir visé des installations énergétiques ces dernières heures, en dépit, dit le ministère russe de la Défense, des déclarations de Kiev sur une prétendue cessation des frappes sur ce type d'infrastructure. Et si l'Europe affiche son unité sur le dossier ukrainien, la question des droits de douane, en revanche, divise le continent. Faut-il riposter aux 25% de taxes supplémentaires annoncées par la Maison-Blanche sur les importations automobiles? La réponse est oui, selon l'Allemagne, qui appelle l'Union européenne à apporter une réponse ferme. Mais c'est plutôt non pour le Royaume-Uni. Nous ne voulons rien faire qui puisse intensifier ces guerres commerciales, assure le gouvernement britannique. Alors, quelle est la position de la France? Écoutez Éric Lombard, le ministre de l'économie, qui était ce matin l'invité de France Inter.
Nous sommes dans une situation où nous sommes agressés. Soit on se laisse faire, et dans ces cas-là, cette situation ne s'arrêtera jamais, soit on riposte. Et la seule solution pour l'Union européenne va être à son tour d'augmenter les tarifs douaniers envers les produits américains, et la liste est en train d'être établie par la Commission dans le dialogue avec nous. Nous voulons rééquilibrer le jeu de sorte que les Américains, eux aussi, soient contraints de négocier avec nous. La Commission européenne a reporté le moment où cette hausse s'appliquerait à mi-avril. J'espère, je l'ai proposé d'ailleurs au G7, que nous puissions avoir un dialogue avant mi-avril, de façon à ce qu'on emprunte le chemin de la paix le plus vite possible. Mais c'est aux Américains de se prononcer.
Le ministre de l'économie, Éric Lombard, qui veut donc croire sur France Inter au chemin de la paix, alors que les marchés, eux, font part de leur inquiétude. Les entreprises du secteur automobile étaient en forte baisse à la bourse ce matin, notamment les marques allemandes qui exportent beaucoup de modèles haut de gamme aux États-Unis. Alors qu'en est-il en France? On va voir ça avec vous. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Les droits de douane vont-ils pénaliser les constructeurs français?
Bah écoutez, l'impact pour nos constructeurs est a priori beaucoup plus limité, ce qui ne veut pas dire zéro effet pour eux. Pour preuve, la secousse boursière ce matin a également touché Stellantis, ex-PSA, qui a vu son cours ce matin plonger de près de 7% à l'ouverture. Stellantis, groupe mondial, puisqu'au-delà des Peugeot, de Citroën, il détient aussi des marques comme Jeep, Chrysler, Dodge, tournées vers le marché américain. Mais les usines de Stellantis en Europe produisent pour l'Europe, d'où cet impact entre guillemets limité pour un connaisseur du dossier, pour qui les analystes boursicoteurs ont surtout réagi à chaud ce matin, tandis que chez Renault, on dédramatise, là aussi, on ne vend rien aux États-Unis, insiste le groupe, bien moins affecté que les Volkswagen et autres constructeurs japonais surcapacitaires et qui exportent du Japon vers le continent américain. Non, la véritable inquiétude porte en revanche sur les équipementiers français comme Valeo, qui dépendent d'un marché global de plusieurs constructeurs, ce qui mécaniquement forcément les expose davantage.
Maxime Debs, service économie de France Inter. Et puis, conséquence aussi de cette guerre commerciale lancée par les États-Unis, le groupe sidérurgiste British Steel dit préparer la fermeture de ses hauts fourneaux sur le sol britannique. L'entreprise, qui appartient à un groupe chinois, pourrait supprimer plus de 2000 postes. Le président du Rassemblement National, lui, poursuit son déplacement en Israël. Jordan Bardella doit s'exprimer aujourd'hui lors d'une conférence sur l'antisémitisme organisée par le gouvernement israélien, ce qui suscite des réactions contrasté au sein de la communauté juive à travers le monde. Le gouvernement israélien critiqué aussi pour son projet de réforme de la justice. Dernier épisode ce matin, le Parlement a adopté une loi qui renforce l'influence du pouvoir politique dans la nomination des juges. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour.
Vous êtes à Jérusalem où l'opposition a immédiatement saisi la Cour suprême.
Et les dossiers s'empilent sur les bureaux des magistrats de la Cour suprême qui est, je vous le rappelle, le seul contre-pouvoir fort. Les juges vont donc devoir, dans les prochains jours, déterminer la légalité des renvois du patron des services secrets intérieurs et de la procureure générale, du retour du suprémaciste Itamar Ben-Gvir au gouvernement, et donc décider si cette nouvelle loi votée ce matin est conforme ou non à l'esprit des textes fondamentaux de la démocratie israélienne. Situation inédite pour un régime bousculé comme jamais, selon le professeur de droit constitutionnel Claude Klein.
Si effectivement le gouvernement parvenait à faire nommer des juges à sa botte, les procès contre les hommes politiques, il y en a de plus en plus, y compris Netanyahou, seraient remis en cause. C'est une des mesures les plus graves que ce gouvernement ait prises. On va vers une autocratie et c'est extrêmement dangereux.
Alors ça, c'est sur le plan du droit. D'un point de vue politique, la loi votée ce matin est le premier étage d'un ensemble de textes qui doit aboutir à l'affaiblissement du pouvoir de la Cour suprême au profit de l'exécutif. Les opposants à Benjamin Netanyahou pensaient cette réforme de la justice enterrée après les manifestations monstres du début de l'année 2023. Deux ans après, elle revient au cœur des débats alors que le gouvernement s'appuie au Parlement sur une majorité plus forte que jamais.
Thibault Lefebvre, correspondant de France Inter à Jérusalem. L'association était connue pour ses actions aussi spectaculaires que critiquées, des routes bloquées, des compétitions sportives interrompues, de la soupe jetée sur des tableaux pour alerter l'opinion publique sur les enjeux climatiques. L'ONG britannique Just Stop Oil annonce qu'elle va mettre fin à ses actions choc, car notre demande initiale de mettre fin à l'exploitation du pétrole et du gaz est désormais une politique gouvernementale, dit l'organisation dans un communiqué, ce qui fait de nous l'une des campagnes de résistance civile les plus réussies de l'histoire récente. Et puisque l'on parle de la crise climatique et de ses conséquences, la Corée du Sud fait face aux incendies les plus meurtriers de son histoire. 27 personnes ont été tuées, selon le bilan publié ce matin par les autorités. Plus de 35 000 hectares de forêt ont été ravagés par les flammes. La faute à la forte sécheresse, notamment. Il y a eu cette année deux fois moins de précipitations que d'habitude dans les zones touchées par les incendies. Au tribunal correctionnel de Paris, le procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle se poursuit. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Et le réquisitoire est en cours.
On peut être excellent acteur, père de famille, voisin, vient d'entamer le procureur dans son réquisitoire. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les infractions qu'on peut commettre. Alors, vous allez juger Gérard Depardieu comme n'importe quel autre justiciable. Car si cette affaire a pris des proportions gigantesques, poursuit le représentant de la société, elle n'en reste qu'un dossier d'agression sexuelle sur des faits extrêmement simples. Des faits qui, en ce qui concerne Gérard Depardieu, se sont accumulés sur plusieurs décennies, ont plaidé avant lui les avocates des parties civiles. Lui, Gérard Depardieu, puissance artistique du cinéma français, rappelle maître Karine Durieux-Diebold, puissance économique aussi, d'où le silence collectif et puissance de l'agresseur. Parce que monsieur Depardieu, quand il touche le corps des femmes, il exerce sa puissance sur elles. Enfin, elles, pas Fanny Ardant, relèvent encore les deux avocates. Non, des techniciennes, des petites mains du cinéma, celles pour qui il y a un rapport hiérarchique, un risque de représailles. Alors en réponse à Gérard Depardieu qui crie au complot et qui, pour écouter ses plaidoiries, a chaussé ses lunettes de soleil dans la salle d'audience. En réponse, les avocates des deux femmes assises au premier rang le rappellent. En étant ici, ces femmes-là n'ont rien à y gagner, mais au contraire, tout à y perdre.
Récit d'audience signé Charlotte Piret avec Céline Guéribi pour La Liaison Technique. Il est soupçonné d'avoir porté un coup de couteau mortel lors d'une rixe à hier en Essonne. Un jeune homme de 19 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Lors de sa garde à vue, il a reconnu avoir été sur les lieux de la bagarre lundi devant le lycée professionnel Louis Armand où un adolescent de 17 ans est mort. Mais il nie toute responsabilité. Quatre autres jeunes majeurs ont été mis en examen, mis en cause pour avoir commis des violences volontaires. Et justement, pour mettre fin à la longue litanie des rixes mortels aux abords des établissements scolaires, Elisabeth Borne et Bruno Retailleau se sont rendus dans un lycée parisien ce matin. Les deux ministres promettent davantage de sanctions, davantage de dissuasion aussi. Ils ont demandé au préfet et au recteur d'académie des contrôles aléatoires près des écoles d'ici la fin de l'année scolaire. À Toulouse, une manifestation organisée ce matin pour protester contre la baisse des budgets publics alloués à la culture. Plusieurs centaines de comédiens, danseurs ou encore salariés des bibliothèques ont manifester. Faites de l'art, pas la guerre, disaient notamment les pancartes. Et puis les pénuries de médicaments ont été moins nombreuses l'année dernière. Bonjour Victor Dolan.
Bonjour Céline.
Résultat d'une enquête menée par les autorités sanitaires qui note tout de même que 400 produits ont connu des ruptures de stock en 2024.
Oui, c'est deux fois moins qu'il y a deux ans, en 2022-2023. 800 boîtes de médicaments destinées aux officines étaient en situation de rupture simultanément. C'est donc mieux, mais ces tensions restent à un niveau historiquement élevé. Alors comment expliquer et ce léger mieux. D'un côté, les laboratoires pharmaceutiques se félicitent de leurs efforts. Le suivi des stocks de médicaments dits essentiels et mieux assurée. Il faut dire aussi que l'agence du médicament a infligé de grosses amendes aux récalcitrants, ces labos qui ne constituent pas des stocks suffisants de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Ils ont reçu des amendes bien salées, plusieurs millions d'euros. Dernière explication, la demande mondiale qui avait explosé après le Covid, mais que les chaînes de production n'ont pu suivre. Eh bien, cette demande n'a pas baissé, mais la production, elle, a été reboostée. En clair, les usines de production ont augmenté leur cadence. Tout n'est pas parfait, loin de là, car il reste encore des fortes tensions, et ce dans toutes les classes thérapeutiques. Toutefois, près des trois quarts des déclarations de rupture de stock ont concerné les médicaments du système cardiovasculaire, du système nerveux, dont le paracétamol et les antibiotiques.
Merci Victor Delande, spécialiste santé à la rédaction de France Inter. On retrouve tout de suite Jérôme Cadet à Pau pour cette édition spéciale du 13-14.
Merci Céline Asselot. On va se retrouver ici en direct dans une minute. Ce sera juste avant la météo.
L'amour, le pouvoir, la dignité. Dan Lehmann a tout perdu. Noyé dans l'alcool et les affaires judiciaires, la vie de l'ex-président de la République se fissure, au même rythme que son mariage avec l'actrice Hilda Müller. Avec son nouveau roman, Karine Thuil explore les mécaniques cruelles du pouvoir et du couple. Dans une société fracturée de toutes parts, où la jeunesse et le capital social deviennent les meilleures armes de séduction, se joue une guerre clandestine. Mais qui en sortira vainqueur ? La guerre par d'autres moyens, de Karine Thuil, aux éditions Gallimard.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Le temps de cet après-midi, c'est du soleil au nord, des nuages au sud.
Oui, du sud-ouest vers le massif central et le nord des Alpes, on a un ciel vraiment bien encombré, hein, des éclaircies très discrètes. Près des Pyrénées, il reste même quelques averses, un peu de neige vers 1700 mètres. Autour de la Méditerranée, là, le vent souffle jusqu'à 60 km à l'heure. Il a quand même tendance à dégager le ciel. Hein. Le soleil domine du Vaucluse vers les Bouches-du-Rhône-le-Var. Ça reste un peu plus nuageux vers le Languedoc-Roussillon, sur la Provence et la Corse aussi, avec toujours un risque d'averses. Et puis en allant vers le nord, c'est du soleil, parfois un petit peu contesté tout de même vers la Manche avec des passages nuageux. Les températures sont assez douces, souvent 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison. Comptez 13 à 17 degrés le plus souvent, alors 13 degrés à Deauville, à Pau également, 16 à Nancy, à Grenoble, 17 à Paris, Nantes et Bordeaux, jusqu'à 17 à 20 degrés autour de la Méditerranée. Demain, on aura de nouvelles pluies sur le nord-ouest, le soleil l'emportera sur le nord-est encore, et puis autour de la Méditerranée, du soleil aussi, mais du vent assez fort demain.
Elodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Un 13-14 sur le terrain en direct de Pau, d'où est parti le séisme qui secoue des établissements scolaires catholiques en ce moment. Plus d'une dizaine mises en cause à ce jour pour des faits de violence physique et sexuelle partout en France. On parle de faits commis entre les années 50 jusqu'au début des années 2000. Tout a donc débuté tout près d'ici, à une vingtaine de kilomètres, dans le collège-lycée Notre-Dame de Bétarame, au sud-est donc de Pau. On va essayer de comprendre avec nos invités ce qui s'est passé là-bas et pourquoi les alertes n'ont pas été entendues, car il y en a eu. Je vous présente nos invités. Katia Legret, qui était avec nous tout à l'heure pour l'ouverture de ce 13-14, directrice de l'APAVIM, l'Association Pyrénéenne d'Aide aux Victimes et de Médiation, qui nous accueille donc dans ses locaux de Pau, dans cet ancien couvent. Merci une nouvelle fois, Katia Legret, de nous accueillir dans ce qui est votre bureau,
oui.
C'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et l'accueil des victimes se fait dans les pièces à côté.
Dans les pièces à côté, oui.
Le numéro d'appel, le 3919, il est affiché au mur si vous êtes témoin de violences faites aux femmes, notamment. Le numéro est affiché dans ce lieu qui est dédié à l'accueil des victimes et qui évidemment dédie une grande partie de son activité à l'accueil des victimes de Notre-Dame de Bétarame ces derniers mois. Vous faites partie de l'association des victimes, Alexandre Pérez. Bonjour.
Bonjour Jérôme.
Merci d'être avec nous. Scolarisé dans cet établissement de 1989 à 1993, vous connaissez ce lieu, vous y venez régulièrement.
Depuis un an, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois avec Katia Legret, en effet.
Annie est avec nous également, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Maman d'un élève de Bétarame, scolarisé à partir de 1993, votre fils a une quarantaine d'années.
42 ans.
42 ans aujourd'hui, et il vient aussi dans ce lieu.
Oui, il est venu une fois.
Il est venu une fois ici pour rencontrer aussi partie des membres de l'association. Je salue à nouveau Rodolphe Jarry, procureur de Pau, avec nous. Merci d'être là. Marion Aquilina, journaliste pour Ici Béarn. Bonjour Marion.
Bonjour.
Vous avez signé vendredi dernier une enquête sur Inter qu'on peut réécouter. C'était le Zoom de vendredi dernier qui permet de comprendre toute cette affaire. Et on retrouve évidemment sur le site d'Inter, mais aussi sur le site d'Ici Béarn, toutes vos informations. Et on fera avec vous la chronologie parce qu'elle est extrêmement importante dans cette affaire que beaucoup de Français ont découvert ces dernières semaines, mais qui en fait est une très vieille affaire et dont on retrouve trace notamment dans les années 90. Et puis nous écouterons aussi, et c'est important, dans quelques minutes, le porte-parole de la congrégation, Laurent Bachot, dont la parole est rare et qui a tenu à s'expliquer. Je voudrais qu'on commence par vous, Alexandre Pérez et Annie. Alexandre, vous avez été élève entre 1989 et 1993, victime de violences physiques et sexuelles. Vous pouvez nous raconter votre arrivée à Notre-Dame de Bétaram, comment ça se passe ?
Suite à une séparation de mes parents, nous arrivons de la région parisienne. Et une année scolaire que j'ai terminée à Pau, pas de la meilleure des manières. Et ma mère, à un moment, me propose ce choix, en fait, de partir chez mon père, que j'avais déjà fui. Nous l'avions fui à cause de ses violences. Et puis, j'avais le choix entre mon père et Bétaram. Et j'ai choisi Bétaram.
Vous fuyez des violences et vous arrivez à Bétaram.
Et j'arrive à Bétaram. Et là, c'est le temple de la violence. De la part de l'institution et entre les élèves.
Qu'est-ce qui vous arrive ?
L'encadrement, déjà, est très violent avec nous. On reçoit des traitements. Je sais que ma maman me racontait il y a quelques jours qu'elle était intervenue auprès de la direction de Bétaram parce que j'avais reçu d'un surveillant qui aujourd'hui est incarcéré des coups de poing dans le ventre. Donc on ne parle pas de simples gifles. On parle vraiment de traitements... Je voudrais dire inhumain, en fait. Le perron, le supplice du perron, tout le monde en a parlé, de nuit comme de jour. Et là, vous avez le surveillant général qui passe et puis qui vous en met d'autres, sachant qu'on a déjà pris au niveau du dortoir. On se retrouvait aussi en pleine nuit debout parce qu'il y a quelqu'un qui avait chahuté devant notre lit. Et puis, moi, j'étais le seul à parler il y a un peu plus d'un an dans ma plainte. Un prof d'anglais aussi qui m'a mis un coup de batte de cricket sur les fesses. Et puis là, il y a quelques jours, dimanche, en fait, Alain Escar a reçu un témoignage d'autres personnes.
Alain Escar, qui est membre, comme vous, de l'association des victimes de Bétaram. Et c'est lui qui a lancé l'alerte à la fin de l'année 2023. Agression sexuelle aussi.
Alors là, on est. Je dis souvent. Vous savez, c'est un long travail aussi, de faire ressortir tout ça. Et j'ai souvent, il y a une échelle au niveau des abus sexuels. Et moi, je suis sur le voyeurisme aggravé. Là où il y a d'autres personnes qui ont subi des choses vraiment plus dramatiques.
1989-1993, vous en parlez à votre mère à ce moment-là ?
Je parle à ma mère des violences physiques, en effet, et j'avais totalement occulté. C'est elle qui m'en a parlé il y a quelques jours. Et forcément, comme c'est l'omerta, en fait, et le silence règne à Bétaram, quand ma mère y va, circuler, il n'y a rien à voir. Et elle repart comme elle est venue, c'est-à-dire qu'elle vient pour se plaindre, et puis on lui dit, il n'y a rien, et puis de toute façon, s'il y a eu quelque chose, il l'a mérité.
Et rien ne se passe.
Et rien ne se passe.
Annie, vous avez scolarisé votre fils à Bétaram. Pour quelle raison ? Qu'est-ce que ça représentait pour vous, cette école ?
En effet, pour mon fils, c'était l'occasion d'être bien encadré scolairement. Il avait des difficultés scolaires dans les autres établissements, et je pensais que, par exemple, une étude suivie le soir, ce qui n'est pas le cas dans le public, ça serait bien pour lui. Enfin, j'imaginais qu'il serait mieux encadré dans un établissement tel que celui-là, d'autant plus que j'avais été moi-même enseignante dans un établissement catholique de la région, et pendant 3 ans, donc c'est pas rien, 3 ans, donc... J'avais plutôt tendance à avoir confiance dans ce genre d'établissement.
Marion Aquilina, quelle est la réputation à cette époque, dans les années 80-90, de l'établissement ? C'est un établissement un peu à la dure, c'est un peu ça qui se dit ici ?
Oui, en fait, on a beaucoup entendu, et c'est une réalité, hein, les enfants qui aujourd'hui sont des adultes, mais qui nous disaient, c'était pas sage, on t'enverra à Bétaram. Cette phrase-là, cette menace-là, si je puis dire, de la part des parents, elle était prononcée aussi bien ici en Béarn, que dans la région de Bordeaux ou dans la région de Toulouse. C'est vraiment très large comme rayon. Et ce que dit Annie est vrai, c'est-à-dire que tous les adultes ont confiance dans cet établissement et a priori, ils n'ont pas de raison de ne pas avoir confiance dans les pères de Bétaram, en fait.
Mais ils savent qu'il peut y avoir des violences.
Oui, mais c'est aussi, alors il faut le remettre dans, on l'a beaucoup dit aussi, dans un certain contexte, les parents veulent que les enfants filent droit, si je puis dire. Ça a même été dit, moi j'ai rencontré l'ancien évêque du diocèse, Monseigneur Mollère, qui dit, pour les caractères, les personnalités un peu frondeuses, ça permettait de remettre tout le monde dans le droit chemin, et les parents venaient chercher ça. Donc il y avait des coups de règle sur les doigts, des claques, ça j'allais dire... ça choquait personne à l'époque. Mmh. Je parle bien de ces exemples-là.
Ouais. Là, on va bien au-delà, évidemment. On a entendu votre témoignage, Alexandre Pérez. Annie, est-ce que vous pouvez nous raconter notamment ce qui se passe pour votre fils? Il y a un épisode de fugue. Il a 13 ans, il va quitter l'établissement.
Il est parti de l'établissement en pleine nuit avec deux copains. Et il est rentré à pied à Pau, il y a 28 kilomètres.
28 kilomètres à pied de nuit, il a 13 ans.
Il toque à ma porte à 7h du matin. Et donc je suis sidérée de le voir rentrer de là-bas, quoi. Et immédiatement après, on vient le récupérer. Je dis « on », quelqu'un de Bétarama le récupère.
Et
il repart à Bétarama. Ça aurait dû m'alerter quelque part, mais j'ai pensé que c'était, peut-être un mouvement d'humeur... Bon, j'ai pas réalisé qu'il pouvait y avoir des choses plus graves.
Quand est-ce que vous avez su? Quand est-ce que vous avez appris que votre fils était non seulement frappé, mais qu'il avait été aussi abusé sexuellement dans cet établissement?
L'année dernière.
C'est lui qui vient vous en parler. Comment ça se passe?
Alors, il vient chez moi l'année dernière, au mois de juin. Je lui montre des photos qu'un ami de la famille avait retrouvées. Je lui montre ces photos où on est tous autour d'une piscine, en train de rigoler. Il est très heureux sur les photos. Et je lui montre ces photos. Il me dit « Tu vois, maman ?» ça, c'était le temps du bonheur. Alors, je reste assez stupéfaite. Je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Et il commence à m'expliquer des choses. Il m'envoie aussi des photos avant Bétarham, après Bétarham, avant Bétarham, le sourire aux lèvres, après Bétarham, le visage
fermé,
oui. Et il me dit, tu vois pas la différence? Et je lui dis, ben oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je lui demande de m'expliquer. Alors il me dit avec ses mots, mais il me dit pas tout. Parce que les mots d'un... Enfin, c'est très difficile pour lui d'expliquer ce qui s'est passé. Il a été violé à plusieurs reprises. C'est ce que je comprends, mais à mi-mot, enfin, c'est très compliqué.
Et donc vous, finalement, renouez avec cette histoire, vous en parlez entre vous?
Oui, et puis il me montre une lettre que j'ai rédigée au médecin de famille, en exposant le fait qu'on lui avait fait faire un scanner cérébral. Le médecin avait prescrit un scanner cérébral, donc il se plaignait de maux de tête.
C'est-à-dire la
violence,
des
coups.
Ouais.
Certainement. Et puis, je détaillerai pas la suite, mais enfin, des choses qui auraient dû, en principe, m'alerter. Mais en fait, je n'ai rien vu, quoi.
Les témoignages qu'on entend là, et je vous remercie de les livrer parce que c'est extrêmement douloureux et difficile ce que vous faites, mais je pense que c'est important pour que les auditeurs comprennent. Katia Legret, dans une pièce juste à côté, il y a une phrase de Boris Cyrulnik qui est affichée au mur. Quand on raconte son passé, on ne le revit pas, on le reconstruit. On peut s'appuyer, déjà la prise de parole, c'est déjà un premier pas?
Alors oui, la prise de parole, c'est déjà un premier pas, mais on dit aussi que redire, c'est revivre, d'où le fait aussi de ne pas démultiplier les interlocuteurs, et d'où l'intérêt qu'on ait été saisi très très rapidement par le parquet de Pau, afin de pouvoir accompagner les personnes au plus près de leur verbalisation. La reconstruction ensuite, c'est de soi à soi. Donc le fait de pouvoir verbaliser et aussi que la honte change de camp, puisqu'on est effectivement sur cette demande aussi, hein, et que chaque institution reprenne aussi sa responsabilité, c'est fondamental. Et ça, évidemment, ça va aider à cette reconstruction-là. Pardon.
Alexandre Pérez, c'est un traumatisme avec lequel on vit toute sa vie. Vous nous racontiez en préparant cette émission que vous avez toujours la peur du dimanche soir. C'est quelque chose qui vous habite toujours aujourd'hui?
Oui, c'est une angoisse que j'ai depuis Bétarham, en fait. Et à force d'échanger avec mes camarades, j'ai compris qu'on l'avait quasiment tous. Et c'est là que j'ai réussi à mettre le doigt sur pourquoi je n'arrivais pas à boucler ma valise pour partir même en voyage.
Quand vous partez en voyage, il y a une difficulté pour faire votre valise?
Ah, tout à fait.
Et vous ne saviez pas pourquoi?
Non.
Et quand est-ce que vous vous en êtes rendu compte? Quand est-ce que vous avez compris?
L'année dernière, et je me souviens avoir été interrogé par un de vos collègues sur Boulevard des Pyrénées, un journaliste parisien qui était venu. Et là,
en fait, une avenue célèbre de Pau.
Oui, tout à fait. Et c'est là que j'ai fondu en larmes en me rendant compte en fait, de ce traumatisme qui m'avait poursuivi depuis 35 ans.
Rodolphe Jarry, on voit la puissance de ces témoignages. C'est un dossier, vous, que vous découvrez en février 2024.
Ouais, exactement. Les premières plaintes...
Vous êtes le procureur de la République de Pau, je le rappelle.
Exactement. Les premières plaintes nous parviennent au parquet de Pau en février 2024. Et moi je suis arrivé en septembre 2022 au parquet de Pau. Et c'est un dossier, évidemment, c'est un nom même que je découvre, Betaram. Voilà, c'est pas un nom qui a été porté à ma connaissance avant.
Aujourd'hui, quelle est l'ampleur de ce dossier?
Alors, il faut d'abord dire que malheureusement, les magistrats et les magistrats du parquet, notamment, ont l'habitude de traiter des dossiers de violence sexuelle. C'est triste à dire, mais enfin, ça fait partie de notre quotidien, y compris des faits assez sordide sur des enfants. Bon, ce dossier, il est, je le disais tout à l'heure en introduction, il est hors norme parce que, on a un nombre de victimes qui est très important. Hors norme aussi parce que on a des faits qui sont extrêmement anciens, qui remontent jusque dans les années 50. Les faits les plus anciens, c'est 1957 à ce stade des investigations. Et puis hors norme, surtout, ai-je envie de dire, comme vous l'avez entendu, par la force du traumatisme qui subsiste. Ce traumatisme qui a été infligé à des enfants et que des adultes continuent à subir aujourd'hui.
157 plaintes, c'est ça, de déposer?
Voilà, alors au moment où on a ouvert l'information judiciaire le 21 février dernier, on était à 97 victimes, des plaintes donc, et depuis lors, mais c'est un chiffre qui change quotidiennement et j'ai envie de dire, on en a reçu 60 de plus au parquet de Pau. Donc on est à 157, mais c'est un calcul qui est évidemment précaire, parce qu'encore une fois, moi, j'ai encore reçu une plainte il y a deux jours, donc ça arrive quasiment quotidiennement.
Alexandre Pérez, il pourrait y avoir d'autres dépôts de plaintes de la part du collectif dans les prochains jours?
Tout à fait, le 2 avril à 9h30, nous déposeront avec Alain Esquer et des membres du collectif 48 signalements, témoignages, attestations de voilà.
48 nouveaux signalements mercredi prochain.
Pour arriver à 200.
Vous avez les moyens d'instruire toutes ces plaintes, Rodolphe Jarry?
Alors, il y a eu deux temps. Il y a eu d'abord le temps de l'enquête préliminaire qu'on a géré nous au parquet. Et j'ai désigné une collègue qui est mon adjointe pour s'occuper plus particulièrement de ce dossier. Elle a lu chacune des plaintes de A à Z. Et ensuite, on a analysé ce dossier ensemble. Donc, le temps de l'enquête, on a pu gérer, effectivement. Ça n'a pas été forcément simple parce que, non pas tellement aux raisons du volume que j'évoquais il y a un instant, mais parce que, disons-le franchement, tout magistrat que nous sommes, ce sont des faits qui sont assez bouleversants. Ouais. Désormais, une information judiciaire est ouverte et il appartient à un juge d'instruction de poursuivre les investigations.
Alors, vous avez-vous découvert ce dossier, évidemment, à votre arrivée ici dans le Béarn? Les Béarnais ne l'ont pas découvert en 2023, Marion Aquilina, avec les messages d'Alain Esquer, qui a rendu public notamment ce qui lui est arrivé à Notre-Dame de Bétaram. C'est une vieille histoire qui remonte, c'est dans les années 80, qu'on a des premières traces, des premières plaintes. Marion Aquilina, vous qui avez suivi ce dossier pour ici Béarn Bigorre et pour Radio France.
Alors déjà, ce que je voudrais préciser, c'est que même en tant que Béarnais, et encore moi je ne suis pas d'ici, on connaît tous autour de nous des gens qui ont, j'allais dire soit les enfants, soit les parents, des grands-parents, qui ont été élèves à Bétaram. Donc c'est vraiment des générations de Béarnais qui sont passées par cet établissement.
Et toute classe sociale confondue, parce qu'on a beaucoup lu aussi, c'est la bourgeoisie du Sud-Ouest. Alors, qui a envoyé ses enfants à Bétaram.
Il y avait effectivement des notables, ça c'est une réalité. Mais Jean-Marie Delbos, qui est une des plus anciennes victimes de ce dossier et qui avait témoigné récemment, lui était orphelin. Donc, vous voyez, il y a un éventail assez large. Pour répondre à votre question, quand on se replonge dans les archives de la presse locale, on découvre que la première fois que ça apparaît, c'est en 1995, ce qui a été appelé plus tard l'affaire de la gifle, mais en fait, très concrètement, c'est un élève qui est donc collégien et qui reçoit en début d'année 95 une gifle, un coup en fait si fort qu'il va perdre 40% de son audition et à la fin d'année qui va être sanctionné, la sanction du perron qu'on a évoqué tout à l'heure, ce qui veut dire qu'il va se retrouver donc en décembre, de nuit, en plein hiver, en sous-vêtements et en t-shirt pendant une ou plusieurs heures. Il va se retrouver en état d'hypothermie. Ses parents ont dû venir le chercher, il a dû être hospitalisé. Après ça, il y a eu, donc évidemment, beaucoup d'articles sur le sujet. Oui. Il y a même eu la création de comités de soutien parce que il y a des anciens élèves qui sont très attachés en fait à cet établissement, qui sont très reconnaissants aussi de l'enseignement qu'ils ont reçu et qui ont voulu soutenir cette institution-là et qui ont même dit, c'est important de le dire, c'est Maître Legrand qui était avocat dans un dossier qui est venu après l'affaire Caricard, qui disait la solidarité à Bétaram, c'est plus fort que la franc-maçonnerie.
C'est dire la puissance des liens qui unissent les anciens élèves. Vous avez prononcé le nom du père Caricard, qui a donc dirigé cet établissement, qui a été l'objet d'une plainte, qui a même été incarcéré à l'époque. Là, il y avait manifestement un moment, on est en 1998, où il y avait la possibilité d'une prise de conscience généralisée.
Ce qui est certain, c'est que là, c'était, j'allais dire, c'était au-delà des violences physiques.
Violences sexuelles.
Il est mis en examen pour viol sur mineur, il est placé en détention provisoire, il est rapidement remise en liberté. Il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque. On est en 98. Les faits dénoncés datent de 88. Et c'est un peu parole contre parole. Hein. Malheureusement, il y a une seule victime. Et donc, il y a, au vu des éléments du dossier, même si le témoignage de cet enfant est convaincant, il n'empêche que ce prêtre, qui est originaire du Pays Basque, il va être placé sous contrôle judiciaire. Et dans un premier temps, il a obligation de rester dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Et finalement, un an plus tard, en 1999, il fait une demande, parce qu'en fait, il a des fonctions à Rome. Il fait une demande, il dit qu'il a été réélu comme économe général. Il motive donc cet assouplissement de son contrôle judiciaire et il va avoir l'autorisation de quitter la France et d'aller en Italie. Et début des années 2000, son corps est retrouvé. Il s'est suicidé dans le Tibre.
Il met fin à ses jours et donc l'action judiciaire s'éteint à ce moment-là. On va moins parler ensuite dans l'actualité de ce qui se passe dans cet établissement. Alain Esquer publie fin 2023 son témoignage. Et puis décembre 2024, il y a la nomination à Matignon de François Bayrou, Marion Aquilina. Et là, vous voyez-vous d'ici de Pau, finalement, cette affaire prendre une ampleur nationale quand nos confrères de Mediapart, eux, affirment que voilà, François Bayrou savait et n'a pas parlé.
C'est une réalité. En fait, l'année dernière, il y avait essentiellement la presse locale qui traitait cette affaire. Il y a eu quand même, je le dis, un article du Monde, un autre article du Point. Uh-huh. Il y a eu, hein, avec des témoignages très forts. François Bayrou était déjà évoqué dans l'article du Monde. Ouais. Il était dit dans cet article de Robin Richardot que Elisabeth Bayrou était présente aux obsèques du père Caricard, dont je parlais tout à l'heure. La professeure de mathématiques, Françoise Gulong, qui témoignait encore hier devant la commission d'enquête parlementaire, était citée dans cet article du Point l'année dernière. Quand François Bayrou est nommé en décembre, franchement, j'allais dire, à part sur le groupe des victimes créé par Alain Esquer sur Facebook, ça fait pas réagir beaucoup. Il faut attendre début février, le jour où doit être votée à l'Assemblée nationale la motion de censure, cet article de Mediapart qui sort, et là, j'allais dire, qui refait un peu l'historique de tout ce qui avait été dit récemment dans les médias. C'est un vrai tournant politique médiatique.
Tournant politique et médiatique. La commission d'enquête parlementaire est créée. Les deux députés étaient là la semaine dernière, d'ailleurs, sur place. François Bayrou, vous avez fait répondre dans votre enquête publiée la semaine dernière. Je ne participerai en rien à ce genre de surenchère. La manœuvre politique est maintenant comprise de tous et la justice a rejeté les plaintes. Je suis le seul à avoir rencontré les victimes. François Bayrou qui disait ignorer tout ce qui se passait au sein de cet établissement où étaient scolarisés ses enfants.
Mais je le dis, c'est important, évidemment. Évidemment que pour faire correctement notre travail, on a contacté les principaux intéressés, puisque l'affaire dans l'affaire, finalement, c'est est-ce que François Bayrou savait quelque chose de ces violences physiques et sexuelles dans l'établissement ? Madame Bayrou, Elisabeth Bayrou, on a voulu la contacter, elle a dit qu'elle ne souhaitait pas répondre. Et François Bayrou, lui, il dément absolument tout.
Rodolphe Jarret, vous avez été saisi de plainte contre François Bayrou ?
Oui, j'ai pu le dire, effectivement. Une plainte pour des non-dénonciations de crimes avait été transmise à mon parquet. Elle est en cours de traitement. Après, sur cette dimension-là, évidemment, ça excède largement mon champ de compétences. Donc, je n'ai pas vocation à m'exprimer sur ce point, si ce n'est pour dire que le travail et parfois la difficulté du parquet, c'est évidemment de mettre tout ce qui est parajudiciaire à distance pour se concentrer uniquement sur les investigations, ce que nous avons fait.
Alors revenons sur la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram. C'est le nom précis de la congrégation qui dirige donc cette école, qui l'a fondée aussi. Nous sommes allés poser la question hier à son porte-parole actuel. Mais que saviez-vous des agissements à l'intérieur de l'établissement? C'est le prêtre Laurent Bachot qui nous a reçus. C'était à une heure de route d'ici, à Saint-Palais, dans le Pays Basque. Dans la pièce dans laquelle il nous reçoit, il y a au mur la photo grise prise en 1855 du fondateur de la congrégation, le basque Saint-Michel Garikoetz. Première question, que saviez-vous des violences décrites aujourd'hui par les victimes?
Ce que je peux dire, c'est que il y avait une discipline, ça c'est vrai, mais pas à ce niveau-là. Quoi. J'étais horrifié de voir ces violences, des coups de pied, tout ça, des enfants la nuit, opérant tout ça, l'hiver. J'étais horrifié de savoir ça.
Mais des coups, oui.
Des coups, oui, des gifles, bon, des gifles, oui. Mais là, c'est une horreur.
Vous n'avez jamais été témoin d'un enfant frappé par un adulte dans l'établissement?
Une gifle, d'accord. Mais pas de violence, non, jamais. La violence telle que ça a été décrit, c'est incroyable.
Donc entre 2017 et 2023, vous n'avez pas connaissance?
Ah non, ça c'est sûr. 2017-2023, non, ça c'est sûr.
Pourtant, il y a eu des plaintes, il y a eu des enquêtes pour des faits de violence physique ou des faits de violence sexuelle.
Oui, les violences aussi. Donc, il faut en revenir sur ça, sur les abus sexuels. Mmh. Donc, si vous voulez, donc ce qui a été dénoncé, c'est en 98, avec le directeur, tout ça. Et alors, si vous voulez, c'est là qu'on ne comprend pas pourquoi ces alertes n'ont pas provoqué toute une réflexion, quoi.
Mais c'est-à-dire que quand le père Caricard a été mis en cause, qu'il y a eu ce dépôt de plainte, qu'il y a eu cette enquête pour des violences sexuelles, qu'il a été incarcéré, puis ensuite il est sorti d'incarcération, il n'y a pas eu de prise de conscience de votre part?
Je crois que non, nous n'avons pas saisi ces alertes. 25 ans après, c'est incompréhensible.
Les victimes aujourd'hui disent « vous n'avez pas voulu voir ».
Bon, si vous voulez, c'est dans l'ambiance générale de l'omerta, hein. Mais qu'on ait caché cela, ça, ce n'est pas vrai. Mais, si vous voulez, il y avait cette omerta dans les familles, tout ça, et donc nous aussi, hein. Sans doute, à ce moment-là, il y avait aussi, si vous voulez, l'institution aussi, hein.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux victimes? Il y a plus de 150, 160 personnes qui ont déposé plainte pour dénoncer des faits de violence physique ou sexuelle durant leur scolarité à Notre-Dame de Bétharram. Qu'est-ce que vous leur dites?
D'abord, c'est l'immense honte. L'immense honte que notre institution, qui a été voulue par un saint, Saint-Michel Garikoetz, en soit arrivée là, quoi. La honte, la colère aussi envers nos frères, hein, qui ont agi ainsi. Hein. Tout ne peut pas être réparé. Hein. Mais notre volonté, c'est d'approcher le plus possible les victimes, quoi. Parce qu'il y a des gens qui continuent à souffrir.
Voilà les mots du prêtre Laurent Bachot qui porte la parole de cette congrégation de Bétharram. Vous l'avez écouté avec attention, Alexandre Pérez, Annie également. Une réaction, Alexandre Pérez?
Écoutez, le premier mot qui me vient, c'est lunaire. Je remercie quand même le père Bachot de s'exprimer parce que il est presque le seul à s'exprimer, ouais, dans la congrégation.
Et il le fait très rarement.
Il le fait très rarement. Bon, il a eu d'autres mots qui étaient pas forcément très agréables à entendre. Il était présent à Bayonne il y a quelques jours et il a écouté ce qu'on avait à lui dire aussi. On a quand même, enfin, comme vous le savez, j'étais à Tarbières pour
soutenir. Dépôt de plainte dans une autre affaire qui concerne un établissement à Garaison, et donc là où il y a une trentaine de témoignages qui ont été apportés hier au palais de justice.
36, et ils ne sont pas entendus et il n'y a personne qui répond de leur côté. Donc on a quand même, je ne peux même pas parler de chance, mais on a quand même cette opportunité de pouvoir communiquer avec la congrégation.
Un début de dialogue et des réparations, déjà, on en parlera dans quelques minutes. Annie, une réaction?
Oui, je suis assez effrayée de l'organisation du silence dans cette affaire. C'était vraiment... L'omerta, elle était systémique, elle était... Il y avait un silence organisé. Enfin, c'est pas possible que tout le monde, que toutes ces victimes se soient tues. C'est que on les faisait taire. Mmh. C'est que tout le monde se taisait, les agresseurs, et on faisait taire les victimes. C'est pas possible. Moi, mon fils ne m'en a parlé que l'année dernière. C'est quand même dingue.
On a parlé, Rodolphe Jarry, de ces 157 hein, plaintes aujourd'hui. Combien concernent des faits qui sont prescrits?
Tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsque nous avons ouvert une information judiciaire, il y a seulement deux faits qui n'étaient pas frappés de prescription. Voilà. Donc l'information judiciaire visait deux faits, d'agression sexuelle aggravée d'une part et de viol aggravé d'autre part, contre un mis en examen qu'a évoqué Monsieur Pérez. Donc à contrario, ça veut dire que tout le reste était prescrit.
Oui. Donc l'immense majorité des faits sont prescrits.
La quasi-totalité des faits sont prescrits.
C'est pourquoi vous avez réuni les victimes pour leur expliquer.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on a ouvert donc cette information judiciaire le 21 février, mais c'était pas satisfaisant de notre côté parce qu'il fallait aussi porter la parole d'institutions judiciaires, expliquer directement aux victimes ce qui s'était passé, quel avait été le travail effectué, quel était notre raisonnement, comment on en était arrivé à ce résultat judiciaire. Et puis l'intérêt, au-delà de l'explication, c'était qu'il y ait un échange. Voilà, c'est ce qu'on voulait, répondre aux questions, à toutes les questions qui avaient pu nous être posées. Donc c'était un échange qui était très dense, très intense, qui a duré plus de 3 heures, je crois, Monsieur Pérez. Bon, et on a essayé de répondre aux questions et d'être pédagogue. Voilà, d'expliquer le cheminement intellectuel, le travail fait pour arriver à ce résultat. Et je veux, Jérôme Cadet, quand même souligner à votre micro le travail assez remarquable qui a été accompli par la gendarmerie, parce que moi je suis là, procureur de la République, c'est très bien, mais la section de recherche de Pau et la brigade de gendarmerie de Nail ont accompli aussi un travail assez remarquable, parce qu'en un an, aller entendre toutes ces personnes. On a aussi saisi la direction générale de la gendarmerie nationale pour que beaucoup d'unités en France soient mobilisées. Bon, ça a été un travail de fourmi, un travail réalisé dans des temps assez impressionnants.
Qu'est-ce qu'il va advenir des victimes pour lesquelles les faits, les violences sont prescrites? Que leur dit la justice?
Eh bien, ce qu'on leur a dit, notamment lors de la fameuse réunion du 27 février que vous évoquiez, et ce qui a été dur à entendre de leur part, ce que je comprends, c'est que, eh bien, d'un point de vue pénal, il n'adviendra rien. C'est-à-dire que les faits qui sont prescrits ne pourront pas se déprescrire. Voilà, ça, c'est pas possible. C'est aussi pour ça qu'on a tenu cette réunion avec l'association APAVIM, parce qu'au-delà de la parole un peu brute, qui était la parole judiciaire, eh bien, on a aussi évoqué derrière toute la prise en charge, parce que cette affaire ne se résume pas à l'aspect pénal des choses. Hein. Il y a aussi d'autres aspects, et Madame Legré, en face de moi, qui est la directrice de la PAVIM, était notamment là pour expliquer tous les autres versants de ce dossier.
Il y a 19 victimes qui ont été reconnues comme telles, et ça ouvre droit à réparation. C'est votre cas, Jean-Rémy Arruet. Bonjour.
Bonjour, Jérôme.
Merci d'être avec nous, membre du collectif des victimes de Notre-Dame de Bétarame. Vous êtes venu, vous me l'avez montré tout à l'heure, avec votre courrier qui atteste, en fait, c'est une reconnaissance de la part de la congrégation qui atteste que vous avez subi des violences.
C'est effectivement une reconnaissance par la commission, reconnaissance et réparation, donc qui est l'intermédiaire pour la congrégation de Bétarame. Et me concernant, c'est une démarche que j'ai initiée au mois de mars 2024, il y a un an, en parallèle des auditions de gendarmerie, de façon à pouvoir explorer le système de la reconnaissance et de la réparation. Et bien évidemment, il s'agit d'essayer de progresser sur les voies qui sont possibles en dehors des voies judiciaires proprement dites. Quoi.
Combien est-ce qu'on vous a proposé d'argent dans le cadre de cette indemnisation ?
Pour agression sexuelle massive, 10 000 euros.
Est-ce que ça vous a fait du bien de recevoir ce document ?
Alors, oui, parce que c'est couper le cordon du silence, quand même. On se retrouve toujours tout seul. On peut dire des choses, on essaie de les mettre en forme, on essaie de donner des mots, mais on est toujours tout seul.
Et vous n'avez pas signé ce document ?
Non. J'ai pas signé ce document, donc il m'est parvenu in fine début décembre 2024, donc il y a 3 mois. Ouais. Justement parce qu'il y a on voit qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce. Maintenant, il faut des résultats.
Katia Legré.
Alors, moi, sur un volet purement juridique, hein, il est vrai qu'en France, on est sur un principe de réparation intégrale. Cette commission s'appelle, donc la CRR, c'est la commission de reconnaissance et de réparation.
Ça veut dire quoi, intégrale ?
Principe de réparation intégrale, c'est qu'on va venir indemniser sur différents postes de préjudice qui ont été mis en place par une nomenclature, hein, nomenclature d'un TIAC, avec tout type de préjudice, hein, allant sur du corporel, sur du psychologique, hein, mais également sur la vie professionnelle, la scolarité, etc. Aujourd'hui, la commission, elle parle d'un principe de reconnaissance, et c'est très bien, et de réparation. Mais il est important de savoir que, déjà, le système français insiste sur le fait que cette réparation, elle est symbolique. On ne va pas ensuite venir reconstruire et on ne répare pas 40 ou 30 années de souffrance. Simplement, il faut aussi avoir un peu de décence. Et quand on voit que effectivement la CRR plafonne ses indemnisations pour les faits les plus graves, donc on va parler des faits de viol à 60 000 euros, mais qu'aujourd'hui on constate que peut être proposée la somme de 10 000 euros, comme monsieur vient de le dire, et dans d'autres dossiers que j'accompagne, entre 31 et 35 000 euros, je rejoins, mais pour le coup, ce que disait ce monsieur, on est sur des faits qui sont horrifiants, c'est de l'horreur, c'est très bien de venir proposer pour ceux, hein, qui se voient proposer, ouais, puisque d'autres se voient, comme monsieur Pérez, se voient refuser en disant que le voyeurisme pour eux n'est finalement pas suffisamment criminel.
Donc vous, monsieur Pérez, on vous propose rien?
Il m'a envoyé un courrier début d'année 2025 en me disant « Nous reconnaissons les faits, nous reconnaissons les conséquences sur votre vie personnelle, professionnelle. » Mais à ce jour, la congrégation est en train de digérer cette information parce que le voyeurisme n'était pas prévu. Et je suis suspendu à une décision et pour l'instant, il n'y a rien.
Et vous attendez donc des réponses
Je relance et j'attends des réponses, oui.
Votre fils a obtenu réparation, est-ce qu'il est dans cette démarche-là?
Alors je ne sais pas s'il est dans cette démarche, et moi je me pose la question, parce que la CRR reconnaît les faits liés à des religieux, mais lui il a été agressé, violé par des laïcs au sein de l'institution. Donc je ne sais pas. Alors je ne sais pas où il en est de ces démarches.
Très rapidement, qu'est-ce que
la CRR en tout cas a pour vocation de pouvoir prendre en charge également les faits qui seraient commis par les laïcs, hein, mais on attend le positionnement écrit.
On l'a dit, et il y a eu hier ces témoignages apportés au tribunal de Tarbes par des victimes dans un autre établissement scolaire. Plusieurs établissements scolaires sont aujourd'hui visés par des plaintes partout en France, plus d'une dizaine. Ça veut dire, Rodolphe Jarive, que vous êtes en lien avec des procureurs d'autres parquets ?
Oui, tout à fait. J'ai pu avoir des échanges informels avec des procureurs d'autres parquets, tout simplement pour un peu recouper les informations qu'on peut avoir pour être notamment sûr que dans mon dossier, il n'y a pas des noms qui peuvent ressortir dans un autre dossier. Donc oui, je suis en contact avec plusieurs procureurs de la République.
Procureur de Limoges, par exemple.
Procureur de Limoges, Châteauroux. J'ai pu prendre un contact aussi avec le parquet de Nanterre il n'y a pas si longtemps que ça.
C'est la même chose du côté des victimes. Katia Legray, vous êtes en lien avec d'autres associations en France?
Oui, tout à fait. On a envoyé une note indiquant à toutes les associations d'aide aux victimes comment faire et le process qui est intégré. Et nous, systématiquement, ça nous est renvoyé et nous adressons un mail à Madame Yawank, la procureure adjointe qui est en charge de ce dossier.
Ce qui interroge aussi Marion Aquilina, vous qui avez travaillé sur ce dossier, sur le côté systémique, sur un modèle, un mode d'enseignement et d'éducation qui aurait été appliqué à l'échelle du pays dans plusieurs établissements en même temps. C'est un des sujets que soulève votre enquête.
Oui, en fait, on a, dans le cadre de cette enquête qui a été faite donc en partenariat avec ICI Béarn Bigorre et la cellule d'investigation de Radio France, on a contacté un historien de l'éducation qui s'appelle Claude Lelièvre pour comprendre. Finalement, pourquoi dans notre pays il y a ces punitions, j'allais dire, dans un système éducatif. Et donc, en fait, visiblement, ça date du 19e siècle. Il y avait historiquement les jésuites et les frères des écoles chrétiennes. D'ailleurs, il y a des frères des écoles chrétiennes qui enseignaient dans certains établissements liés à la congrégation des Pères de Notre-Dame de Bétharame. Et il y avait cette idée que c'était donc des corps d'élite enseignants qui utilisait ces châtiments corporels dans un cadre pédagogique. Et j'allais dire, même nous, plus classiquement dans nos familles, il y a des résidus de cela, le martinet par exemple.
Ouais.
Il y avait dans les classes donc des punitions, mais il y avait aussi dans les familles. Et finalement, en fait, c'est comme ça qu'on peut comprendre pourquoi aujourd'hui et pourquoi encore au XXe siècle, et notamment dans les années 80-90, il y avait ces établissements où il y avait encore des châtiments corporels.
Et c'est ce qui explique peut-être, alors le travail journalistique et judiciaire est encore à faire, mais les dimensions que prend cette affaire et pourquoi la parole se libère et pourquoi Elisabeth Borne a parlé il y a quelques jours d'un MeToo scolaire.
Oui, bah, c'est-à-dire que c'est ce qu'on dit. En fait, finalement, il y a une organisation du silence, il y a une parole qui est verrouillée et finalement qui se répète, j'allais dire, à tous les étages de la hiérarchie. Il y a un professeur, un ancien professeur de français latin, Alain Bourillon, qui travaillait à l'institution Notre-Dame de Bétharram, qui lui raconte ça, en fait, qui dit tout était fait pour finalement que les enseignants se taisent et que même ceux qui voulaient dénoncer, les accusateurs se retrouvent eux-mêmes accusés.
Je voudrais qu'on termine ce 13-14 qui arrive à son terme ici en direct de Pau avec le travail que vous menez ici, Katia Legré. J'étais assez surpris que vous m'expliquiez tout à l'heure. Bah, on a un chat. En fait, on a un chat qui est là et qui se balade ici. Manifestement, tout le monde le connaît.
Oui.
Et qui vient et qui aide quoi à prendre à ce que le lien soit plus simple avec les personnes qui viennent vous parler.
Alors, Bianca, elle a beaucoup aidé, notamment au début, mais les enfants au niveau de la libération de la parole, c'était « Ah, moi, je veux pas voir le jury, je veux pas voir le psychologue, je veux bien un entretien avec Bianca ». Donc, le chat l'accompagne. Et exactement, elle ronronne bien. Et donc, ça permet aussi d'avoir des entretiens qui sont plus sereins pour certains, qui arrivent enfin à lâcher prise aussi, à pleurer. On parle de toute façon de la ronronthérapie, hein, ça existe. Mais c'est vrai qu'il faut le voir, en tout cas, pour croire en l'impact assez incroyable qu'a Bianca.
Et il y aura un nouveau chat ici dans quelques jours, je crois, Rodolphe Jarry, très très rapidement.
Non, c'est juste dire que c'est plus qu'un chat, c'est même un chat d'assistance judiciaire, donc c'est un dispositif reconnu par la justice.
Ouais. Et reconnu donc par le parquet de Pau. Merci à tous d'avoir participé à ce 13-14, merci de votre présence, merci infiniment Katia Legré de votre accueil ici aujourd'hui à la Pavim, 07 83 44 40 25. C'est le numéro de téléphone. Je voudrais remercier également Marion Aquilina et vos enquêtes sont à retrouver sur les sites de Radio France. Merci à Eric Gérard, notre chargé de production, qui se cache là-bas dans le jardin. La technique aujourd'hui, Virginie Lorda et Eric Audra. Claire-Sophie Collet pour la préparation de cette émission. Cécilia Arbona assurait la rédaction en chef.